Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 25, avec autour de la table pour animer cette émission, Charles, comment tu vas bien mon pote?
Salut Matt, salut à tous, salut à toutes, et ben moi ça va très bien et je vous souhaite à tous une bonne émission.
Et puis à côté de toi, c'est Jérém, il est de retour. Salut Jérém.
Salut, salut, et bonsoir à tous et à toutes, et heureux de revenir faire l'émission ce soir.
Et puis on n'oublie pas Jean-Marc. Salut Jean-Marc.
Salut à tous, et j'en profite pour saluer Damien, bénévole du H que tu connais bien, puisque c'est lui qui accueille les journalistes. Et il est également joueur du HC Sautron, et je les félicite pour leur montée en pré-national.
Ouais, bravo à eux. Alors, au menu ce soir, une large page football. On revient sur les Coupes d'Europe, le championnat, les championnats étrangers. Dans la foulée, on enchaîne avec le Hand. On prend des nouvelles du H, des Neptunes, et puis des autres clubs engagés sur les Coupes d'Europe. Ensuite, la rubrique multizone avec, on aura du rugby, le top 14, on aura des sports méca, on aura aussi du golf et un mot de tennis, et puis les clubs nantais, enfin ceux qui sont sur le pont. Voilà, on démarre, c'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et chronologiquement, on va commencer avec les Coupes d'Europe, les garçons. Pas d'exploit pour Villarreal après avoir sorti le Bayern. Le sous-marin jaune, Jean-Marc, reste à quai.
Oui, c'est un peu facile. Mais du coup, il n'a pas supporté le voyage à Anfield et une défaite, Charles.
2-0. Ils s'en sortent, disons plutôt bien, hein, au vu du nombre, de la domination mais absolue de Liverpool sur ce match. Ils n'ont eu que très peu d'occasions, les Villarreal. C'est vraiment une défaite finalement 2-0 où ils restent en vie sans être en vie. C'est que ça va être compliqué pour le match retour. Chez eux, on sait qu'il y a une grosse ambiance là-bas, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais surtout qu'ils ont eu.
Stade de la Ceramica.
Exactement. Ils ont eu notamment une très bonne première période de Liverpool. Ils ont dominé, ils ont eu les occasions. Non, Mohamed Salah qui en a loupé deux notamment. Enfin, c'est voilà, ils ont pas réussi à marquer. Finalement, le verrou a sauté en deuxième période, notamment sur un centre contré par Estupiñán et du coup qui revient vers le but et but contre son camp. Et puis Sadio Mané deux minutes après qui en remet un deuxième but. Villarreal a pu quand même conserver ce score, mais on a vu une Villarreal complètement aux abois et défensivement ils ont fait que défendre tout le match.
Et Liverpool comme à son habitude un vrai rouleau compresseur qui attaque constamment.
C'est sûr, là c'était incroyable de voir la densité qu'ils mettaient à chaque fois que Villarreal voulait ressortir, ils perdaient le ballon dans les 10 mètres, 3, les 3 les 5 secondes après, ils n'arrivaient pas à enchaîner des passes pour aller de l'avant, ils envoyaient que des longs ballons, mais derrière au second ballon ils étaient jamais là, enfin ils ont eu peut-être une ou deux occasions, parce que tu as toujours des occasions dans un match, mais ils ont été littéralement, ils ont coulé, quoi. Ouais. Tellement c'était incroyable de le niveau de Liverpool sur ce match-là. Ça.
Bon, le sous-marin a coulé, il leur restera donc un match mercredi.
Mardi,
c'est demain pour eux. L'autre résultat, c'était encore un club anglais. Hein. Le City de Guardiola face au Real d'Ancelotti, Jean-Marc, un match spectaculaire.
Un match fou qu'on croyait que Manchester City allait plier. Et au final, 4-3 qui est presque, je dirais, de meilleur augure pour le Real que City.
Je suis pas d'accord. Dans le sens, alors pour, déjà, non, mais déjà, on a vu, faut le dire, un match incroyable.
C'était, à sens unique. C'était,
alors pas forcément à sens unique pour moi, mais on a vu surtout un match incroyable, un des plus beaux matchs de cette saison hein, qu'on a vu offensivement, défensivement. Il y a des choses à redire et forcément, mais c'est vu le nombre de buts qu'il y a. Mais on a vu surtout City très bien commencer, 2 buts dans les 10 premières minutes, De Bruyne, Jesus, et derrière on l'a vu notamment des occasions de Mahrez, de Foden, tout ça. City a largement dominé sur les 20-25 premières minutes. Puis on a commencé à voir le Real Madrid commencer à jouer, à être un peu plus aller de l'avant, à avoir des intentions et tout. Et on a vu surtout du coup Benzema qui réduit le score à la 33e minute de jeu. Encore lui, toujours là.
Super frappe. Hein.
Super frappe sur un centre de Fernand Mendy. Et puis là, il a dévié vers le second poteau et poteau rentrant. Et c'est à ce moment-là que ça remet vraiment le Real Madrid dans le match, parce qu'on sent qu'à 3-0, ça aurait été différent. Là, il y a vraiment, ça revient à 2-1 et ça permet de relancer une nouvelle dynamique pour les Madrilènes. Mi-temps 2-1 et après on revient très tôt finalement dans la seconde période. Phil Foden marque le troisième but finalement sur un centre de Fernandinho qui est rentré axe droit, défenseur droit. John Stones s'est blessé et puis sur la même occasion il contre un ballon de relance finalement et du coup il va centrer et là sur le 2 minutes après il se fait avoir sur le long touche. Vinicius cette fois ne se fait pas contrer, le ballon passe, Vinicius à la vitesse, Emerick Laporte ne couvre pas, laisse Vinicius aller droit au but et puis forcément il réduit le score. Bernardo Silva marquera sur un quatrième but et puis Benzema sur un penalty.
Panenka
Laporte qui fait la main
culotté.
Très culotté après ce qu'il avait loupé notamment 2 pénaltys sur les matchs sur le match du week-end dernier face à Bilbao, donc il fallait se remettre et là c'est la meilleure des manières. Paenka, ça montre le niveau du garçon et la confiance.
Et on voit que Benzema c'est l'homme des grands matchs, parce que là sur les phases finales il en est à 9 buts marqués,
c'est ça, sur 14, donc c'est le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions.
Mais juste les phases finales c'est un record, c'est 9 buts marqués sur les matchs avant jeu.
Non mais on a vraiment le Benzema, c'est sa meilleure saison actuellement et ça se prouve dans les statistiques dans le jeu.
Il en est à 41 buts confondus et 13 pas décisives, il me semble.
Il explique. Mais ce qui nous laisse finalement
le Real favori pour mercredi alors.
Non, City reste favori je trouve, parce que déjà ils ont quand même la victoire et là il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, ce qui fait que sans la règle du but à l'extérieur finalement c'est comme s'ils avaient gagné 1-0. Donc ça change pas grand chose, sachant que je vois quand même City sur le match qu'ils ont fait offensivement largement incroyable, ils ont dominé quand même sur le Real Madrid dans tout le match, et défensivement ils ont fait des erreurs notamment avec Laporte qui ne frappe sans doute pas au match retour, avec le retour notamment de João Cancelo qui a beaucoup manqué sur les côtés, et là ils auront des vrais latéraux, peut-être Walker, mais du coup ils auront quand même une assise défensive bien meilleure je pense au match retour. Et City connaît entre guillemets ces matchs-là chauds, ils sont en Angleterre à Anfield, tout ça ils connaissent, donc pour moi ça les, même si forcément le Real Madrid ça reste Madrid et on les a vus notamment sur ces matchs de Ligue des Champions, ils sont capables de tout comme du bien au positif dans un match, notamment face à Chelsea au tour d'avant. Donc je vois quand même City favori par leur qualité de jeu et les erreurs qu'ils ne feront pas je pense face à Real Madrid, là où ils ont finalement offert les buts au Real Madrid sur le match aller.
Tu vois plus le Real toi.
Alors non, en fait c'est surtout je voulais vous parler de la dernière finale qui a eu lieu au Stade de France qui opposait Arsenal ou FC Barcelone. Donc forcément une finale entre Anglais et Espagnols. Et je vois plus une finale Real-Liverpool qu'une finale Villarreal-Manchester City.
Ouais, voilà, c'est plus vintage Real-Liverpool. Et puis on n'aurait pas une confrontation anglo-anglaise quoi, qui en fait plus, chier en Coupe d'Europe.
Encore une fois,
on l'aura pas.
Malheureusement, je pense qu'on l'aura.
Comme ça, Liverpool pourra prendre leur revanche contre le Real par rapport à la dernière finale.
Il n'y a pas Ramos cette fois.
Ah bah on suivra ça.
À noter surtout que c'est Clément Turpin qui arbitrera l'arbitre français la finale de la Ligue des Champions au Stade de France.
Ouais, donc, à Paris, le doublé pour la France, le stade et l'arbitre.
Je préfère qu'il arbitre la finale de la Ligue des Champions que la finale de Coupe de France.
Il veut qu'aucun arbitre arbitre la finale.
Si, Stéphanie Frappard, ça me va très bien.
Allez, un mot sur les autres compétitions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.
Leipzig a pris de l'avance sur les Glasgow Rangers en gagnant 1-0 à l'aller.
Chez eux avec un but de Angelino en toute fin de match à 85e. Ancien City Angelino aussi.
Donc match qui va être serré et on ne voit pas pour l'instant de vraies équipes qui se dégagent, même si Leipzig reste favori.
Un petit avantage quand même.
Mais historiquement,
attention, retour à Ibrox.
Voilà. Parce que historiquement, les Rangers, c'est quand même un bon client d'Europe qui reviennent fort. Et voilà. Et dans l'autre demi-finale, c'est l'Eintracht Francfort qui s'est imposé 2 buts à 1 à West Ham.
Avec des buts de Knauf, Michael Antonio pour West Ham et de Daichi Kamada qui a donné le deuxième but à Francfort. Francfort qui fait une très bonne saison cette année.
Je pense que Francfort sera en finale et je pense qu'ils vont même la gagner.
Quand tu gagnes à West Ham au match aller, forcément ça donne beaucoup de confiance. Et ils ont éliminé notamment le Barça au match
aller. En gagnant au Barça en plus.
En plus, au Camp Nou, donc avec 30 000 supporters.
Allez, un mot de l'OM qui jeudi sera encore au porte d'une nouvelle finale européenne et potentiellement d'un titre.
Ben moi, je trouve que leur défaite 3-2, c'est plutôt un bon résultat.
C'est plutôt un bon résultat, oui.
Même si l'histoire des buts extérieurs compte plus, mais franchement, ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Ils s'en sortent à 3-2, c'est plutôt pas mal.
Bah, on a vu notamment un Carole Dessers magnifique, l'attaquant de Feyenoord, qui fait un joli doublé. On dirait qu'on a vu Feyenoord très en forme, mais ils sont très bons. C'est eux qui sont en train d'accrocher entre guillemets à l'Ajax. Bon,
tout à fait.
Ils sont juste derrière eux. C'est normalement l'Ajax va gagner,
mais ce week-end en championnat.
Ils auraient divisé, mais c'est vrai que Feyenoord a gagné ce week-end. Eux, Marseille 3-0. Cette année viennent de perdre 3-0
hier cette semaine, pas cette année.
Oui, du coup ce week-end ils viennent de perdre 3-0.
Confiance, ça va être un petit peu dur et niveau de.
Ça va être un match serré, je pense.
C'est de la Coupe d'Europe, le public sera là, va pousser, il y aura 67 000 spectateurs.
Ça va être plus le match absolument qu'il faut gagner pour les Marseillais pour aller en finale, parce que ça va être finalement leur objectif de la saison avec la Ligue des Champions. Enfin, en qualification.
Oui, non, mais pour l'instant, ils n'ont pas trop à s'inquiéter sur la deuxième place.
Sachant que c'est une coupe entre guillemets qu'ils peuvent aller chercher. Il n'y a pas comme en 2018 face à l'Atlético Madrid. En finale, il n'y aura pas l'Atlético Madrid en face. Il y aura une équipe qui peut potentiellement gagner. Donc, battre. Donc, ça ferait un titre.
Tu nous rappelles l'autre demi
L'autre demi, c'était Leicester, AS Rome. Et on a le droit à un joli 1 partout entre les deux. Pellegrini qui ouvre le score pour l'AS Rome. Et Mancini contre son camp pour Leicester. Du coup, 1 partout. Ça va être chez José Mourinho au match retour à la Roma. Et ça va être très sérieux.
OMS Rome. Ça ferait une belle finale.
Oui, c'est ça. En plus, le seul truc qui n'irait un peu moins bien, alors avec tout le respect que j'ai pour les Albanais, c'est que ça se passe en Albanie, à Tirana, au superbe stade, et qu'il est tout petit. Puis il fait que 20 000 places.
Ah oui.
Bon, ce serait marrant de voir la louve face à des chèvres. Non, je suis méchant.
Allez, on passe au championnat 35e journée ce week-end, et on commence avec les Canaries en déplacement. À Lens.
Un match finalement
partage
frustrant.
Des points de partout.
Frustrant pour au vu du scénario du match finalement pour les Nantais qui menaient 2-0 à la mi-temps, un doublé notamment de Moses Simon qui a fait un très bon match. Carton rouge
pour Jean-Louis Lacca.
Pour Jean-Louis Lacca, le gardien.
Le gardien corse de Lens. Corse. Et puis, faut toujours faire attention à Lens, surtout quand ils sont chez eux et en infériorité numérique. Lens est d'abord revenu à la 67e avant d'obtenir un pénalty à la 81e transformé par Kali Mwendo.
Donc un match finalement de partout qui n'arrange pas les Nantais dans la course, la qualification par le championnat, même si bon, ça reste resté quasiment.
On sait que Nantes restera 10e en gros. Faut voir deux choses. D'une part, pas de carton, pas de blessé en vue de la finale, ça déjà reste quand même important. Et puis, deuxièmement, quand on écoute Antoine Comboiré, il était plutôt satisfait.
Dans l'ensemble, ça reste un bon match.
Bien sûr, plus de la première mi-temps que de la deuxième. Et surtout, il expliquait que techniquement, Nantes aurait pu perdre le match, que Lens méritait ce match nul, et que lui, il préférait positiver. Bien sûr, il a remarqué qu'il y a 2-3 détails qui ne vont pas en défense. Et qu'il faudra corriger pour samedi.
Absolument, ouais.
Surtout que dans le même temps, les Niçois sont quand même réussi à s'imposer en terre bordelaise 1-0. Le but en toute fin de match, 74e d'Andy Delors. Mais on a vu finalement des Niçois peinés hein, quand même face à des Bordelais.
La Nice, c'est ça, ça fait 5-6 matchs qui font des matchs.
C'est ce que j'allais dire.
Ils gagnent 1-0.
Ils gagnent comme face à Rennes, ils gagnent sur des fans, sur des petites actions de chanceux, entre guillemets. Et
Parce qu'en fait, c'est le but, c'est Melvin Barr qui s'infiltre dans la défense. Et finalement, c'est Tom Lacou qui contre le ballon et qui, du coup, sert au 6 mètres Andy Delors seul face à Costil. C'est en fait. Donc, ils marquent sur des buts chanceux. On voit que les Niçois ont quand même plus de mal en ce moment assez poussif. Nantes, finalement, ça reste aussi un peu le cas quand même, hein, même si on voit des choses aussi. Mais du coup, ça va être finalement, pour une finale, finalement très ouverte.
Sur le cas de Nantes, on apprécie le retour totalement en forme de Moses Simon, qui a profité pour marquer son premier doublé. Mais au niveau des attaquants, on est plus satisfait du comportement des Nantais que des Niçois. Ouais. Mais comme tu dis, le petit brin de chance, attention au petit brin de chance des Niçois, parce qu'ils vont tout miser là-dessus.
Ça, c'est sûr. Et défensivement, Nice a peut-être une assise défensive supérieure à Nantes actuellement.
Ouais, rendez-vous pour les fans sur l'agenda, c'est dimanche, samedi 21h, hein, bien sûr. Et des écrans géants à disposition à Nantes, hein, sur les places
Cours Saint-Pierre et Saint-André, à côté de la cathédrale. Oui.
Voilà, là où il y avait la fête foraine. Allez, on enchaîne avec Rennes. Rennes qui se rapproche de la Ligue Europa, Jérém. De la Ligue des Champions, pardon.
Oui, Rennes qui, après ses deux faux pas face à Monaco et Nice, ils se reprennent déjà avec leur belle victoire contre Lorient 5-0. Puis là maintenant, contre Saint-Etienne 2-0, ils se reprennent bien comme il faut.
Avec une performance majeure de l'Evro Majeur.
Il a été vraiment... Il était vraiment très bon match de sa part encore une fois. Son premier doublé avec Rennes. Et Rennes qui s'accroche à cette troisième place solidement.
Bien solidement, à 3 points de Marseille, sachant que dans la 37e journée, c'est Rennes-Marseille.
L'avant-dernier match, c'est en gros, si Rennes gagne contre Marseille, la deuxième place pour Rennes, elle sera quasiment acquise à 100%.
Ouais, Rennes devra d'abord se défaire de Nantes dans un derby à la Beaujoire dimanche.
Non, ce sera le. Pardon, pas 11 dimanche, mai. Non. Le 11 mai, puisque le match est décalé mercredi, à cause de la Coupe de France.
Absolument.
Mais attention à Rennes et à Marseille, avec l'équipe en forme de championnat, qui n'a plus perdu un match depuis la victoire contre Paris, c'est Monaco. Monaco qui roule sur la Ligue 1.
Victoire 2-0 pour les Monégasques sur le voisin Angevin.
Axel Bamba contre son camp et puis Axel Bamba contre son camp et Wissam Ben Yedder qui marque le deuxième but. Ben Yedder en forme, Monaco en forme, qui continue d'impressionner et finalement de revenir en cette fin de championnat, ce que n'a pas réussi à faire d'autres équipes comme Lyon par exemple. Et ben résultat, ils ne sont qu'à 3 points des Marseillais, et résultat, ils peuvent finir deuxième cette fin de saison alors qu'on
je
les
sens que les deux
mal
le multiplex de la 37 et de la 38 va être passionnant.
Oui,
hein.
Il va se passer des choses
pour les places européennes, en tout cas
il va se passer beaucoup de choses,
et aussi pour les places.
Oui, pour ceux qui descendent aussi.
Ça va se jouer entre Metz, Saint-Etienne, Bordeaux et aussi malheureusement bientôt peut-être Clermont qui.
Attention à Clermont, Lorient et Angers.
Clermont qui joue Lyon qui joue par exemple au match prochain, alors que Lyon joue potentiellement une place en Ligue Europa Conférence ou Ligue Europa. Ça va être donc forcément ça va être très très serré en cette fin de championnat pour la relégation, même si on voit quand même Bordeaux MS quand même derrière. Et Saint-Etienne, Clermont, Lorient, Angers qui vont jouer sans doute.
C'est pour le barragiste qu'il va y avoir du suspense entre la 15e et la 18e.
Et du coup, le match d'hier, pour en parler, c'était l'Olympico. On en a un petit peu parlé et tout. C'est la victoire de Lyon 3-0 en terre marseillaise. À noter que c'est quand même. Marseille ne s'est pas imposé sur les 15 dernières confrontations directes en match officiel entre les deux équipes. Donc, ça veut dire que quand même Lyon. C'est quand même gagne beaucoup actuellement face à Marseille. C'est un peu la bête noire des Marseillais. Il y a aussi autre statistique, c'est quand même la dernière fois qu'ils avaient perdu 3-0 à domicile, c'était face à Lyon en 2019 aussi. Et que quand même ça montre quand même le niveau des Lyonnais quand ils y veulent. Et résultat, ils ont fait un très bon match. Loukeba, Dembélé, Toko Ekambi qui marque. C'est malheureusement le match face à Brest perdu il y a deux semaines. À mon avis, leur coûtera assez cher, je pense, pour la potentielle qualification.
Et l'avant-dernier match, ça sera contre Nantes.
En plus.
Allez, on part à l'étranger et on connaît un nouveau champion, c'est en Espagne.
C'est ça.
Allez, viva España.
Le Real Madrid a gagné son 35e titre de Liga. Et grâce à un beau match 4-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Elle a noté la petite passe D de Eduardo Camavinga qui a participé à ce titre. Et aussi encore un but de Benzema qui a marqué son 26e but
en championnat
de Liga en championnat.
Allez, et pour la petite histoire, Ancelotti est champion dans les 5 grands championnats.
Et c'est le seul entraîneur
Il
n'y
en a pas beaucoup qui passaient en France.
Forcément,
parmi les grands.
Mais quand même, ça veut dire quand même le niveau quand même de cet entraîneur, c'est qu'il a gagné quand même le seul entraîneur aujourd'hui dans le monde et dans l'histoire à avoir gagné le championnat dans les 5 grands championnats européens. Italie avec l'AC Milan, Chelsea,
avec Chelsea en France, il peut le faire
avec le Bayern, avec le Real et le PSG
et Paris avec Paris.
Ouais. Donc c'est un très bon coach qui était déjà passé par le Real Madrid et là qui encore fait du très bon travail avec le Real Madrid. Et franchement, c'est pour l'instant demi-finale de Ligue des Champions, champion avec le Real Madrid. C'est
voilà les autres résultats en Espagne. Ceux qui vont la jouer cette Ligue des Champions, ceux qui sont en haut du classement.
Il y a le Barcelone qui remonte bien, qui s'accroche à sa deuxième place. Et d'ailleurs, ça se joue entre Séville, Madrid et le Betis qui sont...
Betis toujours là, hein.
Ils sont un petit peu en dessous, mais...
Ils ont un match en moins, qui joue normalement ce soir face à Retafe, donc ça devrait pouvoir se gagner.
Betis, révélation de la saison, on rappelle qu'ils ont gagné la Coupe d'Espagne. Ouais. Hein.
La Copa del Rey.
Coupe du Roi. Hein.
Ouais, exactement.
Que ça se joue en plus entre le Betis... Betis, ils sont un petit peu là relâchés, ils sont à 9 points de Barcelone qui sont en 166, mais d'ailleurs ça se joue.
Mais ils ont le match en moins bêtise, donc s'ils reviennent, ils peuvent revenir sur l'Atlético et potentiellement après sur Séville, sachant qu'il reste 4 matchs à jouer.
Ils sont à 4 points de l'Atlético.
Ouais.
C'est très serré pour cette fin de saison.
Même si, comme on voit Barcelone et Séville se qualifier, ça va jouer plutôt entre l'Atlético et Betis pour cette 4ème place. Ça va être serré, surtout que l'Atlético, encore une mauvaise opération ce week-end avec une défaite sur le terrain de Bilbao, 2-0. Les buts de Mario Hermoso Consencant et de Iñaki Williams, l'éternel attaquant de Bilbao qui joue lui tous les matchs. Il n'a pas loupé un match depuis, ça fait son 260e match à peu près sans en avoir loupé un.
Allez, on passe de l'autre côté des Alpes avec du suspense évidemment dans le Calcio.
Ah bah le Calcio Italia, eux c'est comme en Angleterre, c'est très serré.
Ça se joue à 2 points.
Ouais, ça se joue à 2 points pour l'instant. L'AC Milan est toujours en tête avec une victoire 1-0 sur la Fiorentina, but de Leao. Et dans le même temps, l'Inter Milan est allé gagner à Udinese 2-1, ce qui nous donne au classement 77 points pour l'AC Milan, 75 pour l'Inter.
Et attention d'ailleurs,
il reste 3 matchs.
La Juve qui continue sa remontée, 2-1 victoire contre
Juve. Napoli qui valide la Ligue des Champions, on le sait.
Qui est quand même à 7 points d'ailleurs, qui peut jouer en embuscade aussi.
Oui, bon, à 7 points, 3 matchs de la fin, 9.
Il reste 3 matchs.
Donc ça voudra dire quand même que les deux équipes s'effondrent devant. Bon, vu la dynamique actuelle, je vois pas encore le Napoli pouvoir gagner, mais on sait jamais, comme tu le dis, Jérémy.
Allez, et en Angleterre, là aussi, point seulement sépare les deux leaders, tellement qu'ils impressionnent.
Et ce beau duel ne s'arrête toujours pas, parce que les Reds et City se rendent coup pour coup à distance. Victoire du premier et Liverpool. Victoire juste après.
Ouais. 1-0 pour Liverpool face à Newcastle, un but de Naby Keita. Match quand même compliqué pour Liverpool, hein, c'est que 1-0. De l'autre côté, City s'est baladé à domicile face à Leeds, 4-0.
C'est ça.
Donc ça va être encore très serré pour ces deux équipes qui peuvent encore se retrouver. Finalement, finale des champions, ça va être un duel.
Ça serait fabuleux. En tous les cas, les deux équipes qui nous donnent le plus de bonheur sur la planète football cette année.
Oui, c'est ça.
Indéniable.
Et à noter en Angleterre la belle remontée au classement de Arsenal qui revient dans le top 4.
Et qui prend la 4ème place à Tottenham.
Ouais. En plus, le rival historique. Du coup,
Chelsea, 3ème, 66 points. Arsenal, 4ème, 63 points. Tottenham, 61 points. Et derrière, c'est décroché entre Manchester United et West Ham.
J'avais un petit dernier mot de foot à parler. C'était la finale de la Ligue des Champions féminines avec les demi-finales. T'allais en parler plus tard ?
Non, vas-y. Je l'avais noté,
voilà. C'était les demi-finales de la Ligue des Champions avec du coup le duel franco-français entre le PSG et Lyon. C'est ce Lyon qui sont sortis avec une victoire 3-2 à l'aller et 2-1 au retour à Paris. Donc les Lyonnaises qualifiées pour la finale. Elles affronteront le FC Barcelone, tombeur de Wolfsburg, 5-1 à domicile au match aller, perdent 2-0 au match retour. Donc une belle finale entre Lyon et Barcelone qui sont notamment les derniers vainqueurs de la Ligue.
Voilà, et pour tes stats, le FC Barcelone n'a jamais battu l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, donc Lyon vers un 8ème titre européen, un record.
Allez, le football c'est fini, on va parler de handball dans Hashtime.
Hashtime, Money Time. Toute l'actualité du HPC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview. Hashtime. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et évidemment, on commence avec le H. Le H, sa semaine européenne, avait commencé par un quart de finale à domicile face à Magdebourg. Jérémy, on y était. Malheureusement, les matchs ça contre Magdebourg se terminent toujours de la même façon, c'est-à-dire mal.
Et ça, malgré pourtant un beau match de base du HBC qui a tout
une bonne entame. Hein,
très bonne entame qui, où tout vont relâcher, ont une petite baisse de régime en milieu de deuxième mi-temps. Puis c'est là que Magdebourg a.
On regrettera, je pense, le pénalty raté par Valero Rivera pour donner un troisième but d'avance à la mi-temps qui aurait donné un 14-11 à la mi-temps. Au Nantais, qui aurait peut-être un petit peu endormi.
Pas faux, mais on regrettera surtout le dernier quart d'heure où Nantes se saborne. Hein.
C'est ça. Et heureusement que Milou était là pour bien aider, pour sauver la baraque, parce que sinon, ça c'était un naufrage.
Ouais. Une défaite de 3 buts alors que Nantes avait peut-être 3 buts d'avance à la 45e, mais trop de pertes de balles.
Ouais, trop d'erreurs et.
De fautes techniques, le gardien en face qui a sorti les arrêts. Ce qui fait que Nantes se retrouve demain sur le parquet de Magdebourg avec 3 buts à remonter.
Tout à fait.
29-26, le score parfait qui enverrait Nantes au Final Four, mais.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, ils l'ont fait face à Berlin, on se rappelle.
C'est ce que j'allais dire, ils l'ont fait contre Berlin, donc gardons espoir mes amis, gardons
sans
espoir.
Sans doute que Magdebourg doit voir l'affaire bien engagée et mettra peut-être pas tous les ingrédients dans cette rencontre, et ça sera à suivre demain.
Et c'est là que Nantes passera.
On croise les doigts, on croise les doigts pour le H qui était samedi de retour à la H Arena GRM pour le match
important.
Le match le plus important de la saison du H, celui qui lui permettait éventuellement d'aller chercher
la Ligue des Champions.
Et il va encore falloir se battre 6 matchs.
Et encore une défaite 28-25. Hein. C'était vraiment la semaine.
26-25. 26-25 hier. Samedi, pardon.
Et du coup, oui, le H qui pouvait reprendre de l'avance au niveau des points comptables face à Aix et s'assurer la deuxième place. Se sont sabordés pendant ce match-là, car Aix n'a rien lâché du match.
Nantes en tête en début de match, mené à la mi-temps, qui repasse en tête à la 40e, et puis encore une fois, ça manque de constance chez les violets cette semaine.
C'est ça, et puis beaucoup d'erreurs techniques, que ce soit offensivement et en défense. Et beaucoup de
bon match de Pardin, qui est à 38%, quand Milou, Emil Nielsen n'était qu'à 27, 10 sur 35.
28%,
ouais, 28%. Ça suffit pas, un grand gardien dans ce genre de match est indispensable. Emile n'a pas réussi à enchaîner. Bon, on lui en demande beaucoup à Emile, il peut pas être le Superman de cette équipe. Et puis le H gagne beaucoup de matchs cette année, ils ne peuvent pas non plus tous les gagner. Malheureusement, ceux-là, ils font du mal quand on les perd.
Surtout toutes les exclusions de 2 minutes à chaque fois qu'on se perd à des moments... fatidique. Encore par chance, Aix, sur les deux premières exclusions, n'ont pas réussi à profiter des 2 minutes d'avance, mais ça va y jouer beaucoup. Il faut vraiment qu'il fasse attention là-dessus.
Ok, un mot des quarts de finale qui commencent demain de la Ligue des Champions. Montpellier affronte Kielce et le Paris Saint-Germain Kiel. Allez.
Moi, je voulais juste dire au programme du coup des Nantais. Donc demain, c'est Magdebourg. Vendredi, déplacement à Beaublanc pour affronter Limoges. Je rappelle que c'était une équipe qui nous avait bien embêté l'année dernière.
La future destination
et
du coach
Enkermes, surtout. Oui. Et puis l'Eratum pour moi, puisque je vous avais dit que la demi-finale de Coupe de France, ça serait Toulouse-Nantes. Ben non, c'est Chartres-Nantes. Et ça sera vendredi 13 mai.
C'est ça.
Et c'est Paris qui reçoit Toulouse.
Exactement.
Et le prochain match à la H Arena, ça sera Cesson. Et c'est dans 18 jours maintenant. Un mot des filles, un mot des Neptunes, Jérémy.
Les filles se sont imposées à Fleury 31-26.
Fleury, le dernier du championnat.
Voilà. Donc pas non plus...
fanfaronné.
Fanfaronné, mais au moins ça leur met de la confiance pour affronter Chambray, qui vont recevoir dimanche à Mangin. A noter la belle performance de Florian André à 8 arrêts et Ada Poichek 7 arrêts.
Et Florian André qui a vécu son premier match dans l'équipe de France au France-Ukraine la semaine dernière. Donc elle aura plein de choses à nous dire dimanche, je pense.
Et c'est aussi à noter la très grosse performance de la jeune Naomi Hardouin qui a marqué 8 buts.
Alors Florian André déjà convoqué mais jamais titulaire, c'est ça ?
Alors non, elle avait jamais joué en fait. Elle était convoquée avec le groupe, mais elle avait jamais joué.
D'accord.
Et là, elle a été mise dans les buts en deuxième mi-temps contre l'Ukraine. Et elle a fait comme d'habitude sa spécialité. Elle a arrêté un jet de 7 mètres.
Eh ben, on la félicite, on l'embrasse et on lui dit à dimanche.
Voilà, exactement.
Un dernier mot, Ligue des champions féminines. Brest à la maison tient en échec Győr.
21 partout.
21 partout. Et donc, voilà, le match retour à Győr. Ben, on espère pour... Pour Brest, Metz est déjà qualifié, hein, on le sait. Hein, puisqu'elle jouait les Russes de Rostov-sur-Don. Donc, place automatique au Final Four pour elle. Bon, bah, on a été complet sur le H et tous les résultats du Hand. On va parler maintenant de nos clubs nantais. C'est Score en Stock.
Money time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et je vais commencer par les boys qui prennent un point à Combray avec leur défaite 3-2.
On est dans les play-downs.
Exactement, de volleyball masculin. 25-19, 25-11 pour Combray dans les premiers sets. Et puis Nantes se réveille, 25-19, 25-17. Et puis ils perdent au tie-break, 15-13. Bon, de toute façon, on sait que Nantes est sauvé, hein. Mais on regardera la semaine prochaine, il y a deux matchs intéressants. Nantes va recevoir Toulouse cette semaine, Toulouse et se déplacera à Poitiers samedi.
Et saison difficile, première saison difficile quand même pour Hubert Hainaut, hein, qui arrive et qui doit sauver le club dans l'élite.
Ouais, compliqué. Après, bon, on sait que... Parce que si tu regardes là, les play-downs, ils sont premiers pour l'instant avec 20 points avec Toulouse. Oui, compliqué, et en même temps, on pouvait espérer mieux, parce qu'avec un ou deux matchs pas ratés de saison régulière, ils accrochaient les play-offs. Et à propos de play-offs, du coup, la finale, ça sera Tours-Montpellier, et ça commence, le premier match, ça sera samedi 7 mai. Et on va surveiller Saint-Nazaire, qui est en finale d'accession en Pro B, qui joue Saint-Quentin.
Ligue B. On passe...
Au basket. Au basket et l'Hermine qui avait un match hyper important à jouer à Tours. Malheureusement perdu d'un tout petit point, 87-86. Nantes qui aura bien joué dans le deuxième quart. Plutôt une belle première mi-temps des Nantais. Et puis, encore une fois, ils ratent leur troisième quart-temps en le perdant 25-18. Hein. L'entraîneur n'était pas content du tout de ce troisième quart-temps. 25 points, c'est beaucoup trop. Du coup, l'Hermine, il leur reste 3 matchs à jouer et ils doivent gagner 2 des 3 matchs puisque l'Hermine est 17e sur 18. Alors, il n'y a qu'une victoire d'écart avec les deux équipes devant. Mais l'Hermine aura fort à faire puisque l'Hermine va commencer mercredi avec la réception d'Aix-Maurienne qui est 9e du championnat. C'est à 20h à la Trocardière. Puis le 7 mai, ça sera un déplacement à Chalon-sur-Saône, 6e. Et le vendredi 13 mai, Nantes recevra Saint-Vallier pour la clôture du championnat. Donc, il faut en gagner 2 sur 3. Au moins les deux matchs à domicile.
Ça va être compliqué, Saint-Vallier, ouais. Surtout qu'ils sont en égalité avec. Enfin, ils sont juste un match devant nous.
Oui, ils sont
une victoire d'avance sur nous. Mais ça peut jouer sur ce dernier match-là. Donc, ça sera important.
Oui, voilà. Donc, il faudrait gagner les deux matchs à domicile pour être sûr de ne pas descendre.
Eh bien, on y croit. On y croit pour l'Hermine.
Un petit mot de rugby. Le rugby, ça n'a pas repris, hein, mais les 16e de finale vont se jouer dimanche prochain. Ça sera le déplacement à Tulle pour le match aller en Corrèze. Vous pouvez même y aller en quart avec le club. Et puis le retour, ça sera le 15 mai à 15h au stade Pascal Laporte. Et sachez que les équipes, si Nantes gagne, ils accèdent à la Fédéralune. Et puis après, il y a la suite pour aller chercher le Brennus de Fédéralune, enfin le bouclier de Fédéralune.
D'accord.
Donc, match très important à venir pour les Nantais, donc dimanche là et dimanche suivant.
Très bien. D'autres résultats de nos clubs nantais ou on enchaîne sur le reste de l'actu ?
Non, j'étais complet.
Parfait. Allez, c'est multizone maintenant. On parle de tout le reste de l'actualité sportive.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec des sports méca. On va parler de MotoGP avec toi, Charles. On était au Grand Prix d'Espagne, à Jerez.
C'est ça, Jerez de la Frontera, un circuit bien aimé, notamment de notre pilote français Fabio Quartararo, double vainqueur en 2020, malheureux en 2021, avec ce fameux syndrome d'éloge qui l'a privé de sa victoire. Et bah là, il est encore très bien revenu avec un très bon week-end encore pour lui.
Deuxième sur la grille. Hein.
Deuxième sur la grille, et bah, bis repetita, deuxième au final. Il a dû faire face à un très grand Francesco Bagnaia, le pilote italien de la team Ducati officiel. Qui a roulé en tête pendant tout le Grand Prix. Fabio Quartararo toujours derrière à moins d'une seconde, mais n'a jamais réussi à le dépasser. Bagnaia avec un très gros rythme, mais surtout avantagé avec ce Ducati très puissant forcément. Ça, dans les lignes droites, à la sortie de chaque virage, Quartararo était à vos boîtes bien placé, c'était compliqué d'aller le chercher.
Une deuxième place qui lui permet de consolider les rênes du championnat du monde, mais le spectacle était derrière la troisième place.
Bah surtout que voilà, pour juste dire, ils ont fini avec 10 secondes d'avance sur le troisième.
C'est ça.
C'est quand même énorme, hein. Pour MotoGP, ça n'arrive quasiment jamais ça.
Avec un magnifique dépassement de Paul Espargaro sur Rafael Marquez et Jack Miller, je crois, dans les tout derniers tours. Paul Espargaro, du coup, qui reste deuxième au classement à 7 points de...
Alej, pardon.
Paul, c'est la Honda.
Ils sont frères.
Alej qui coiffe tout le monde, effectivement, sur l'avant-dernier tour, hein, qui profite d'une mauvaise manœuvre de Marquez pour, à ce moment-là, doubler les deux, hein, Miller, qui étaient devant Miller et... Et marqué super hein, pour Aleix Espargaró, hein, qui est le dauphin de Fabio au classement général.
C'est la première fois qu'une Aprilia est aussi bien classée.
Elle avait gagné quand même.
Elle a gagné, mais cette saison.
Généralement,
ils ont des petits avantages sur le fait que c'est pas une équipe, c'est une des plus petites équipes. Mais cette année, avec leur victoire et les podiums, ils vont perdre des avantages qu'ils ont, c'est-à-dire les deux moteurs supplémentaires et des tests supplémentaires aussi sur leur moto. Donc ça va jouer fort. Forcément aussi pour les années peut-être futures, mais en tout cas, l'Aprilia est très bien née. Et là, on a le droit à un super Aleix Espargaró.
Et la petite déception pour Jon Zarco qui a dû abandonner.
Ouais, sacré chute, un classique. Hein, et
deuxième tour et badaboum. Les Suzuki qui reculent au classement. Ouais. Hein, Rins abandon. Enfin, Rins 18e.
Hein, Rins 18e, il a chuté en début. Enfin, il a fait sorti de piste et résultat, mais il est reparti. Mais bon, c'est impossible à ce moment-là de remonter. Et Johan Mir, seulement 6e. Ça reste quand même une bonne place pour lui dans le sens où il prend des points, mais c'est sûr que les Suzuki on les voyait au-dessus hein, ce week-end pourtant.
Donc week-end parfait pour le Frenchie.
Et voilà. Et le rookie qui s'est montré, c'est Marco Bezzecchi, notamment le team de la team Ducati, du team de Valentino Rossi, lui qui arrive hein, de la Moto2 l'année dernière. Et du coup, il a fait une belle 9e place pour lui, qui continue à prendre des points. C'est avec sa Ducati, il a fait notamment une très bonne qualification en partant 8e. Il part très bien, il se mêle à la lutte pour la 4e, 5e place. Et puis après, il recule forcément un peu plus loin, mais un bon week-end à noter pour l'Italien.
Ok, sur l'agenda, c'est le Grand Prix de France.
Dans 15 jours, semaines.
Au Mans.
Ça va être sympa, ça encore. Fabio Quartararo l'attend avec impatience, hein, ce Grand Prix.
Attention à la pluie.
Personne n'est chaud pour aller au Mans, là, non?
Bah si t'as des places,
des accrèdes,
vas-y, n'hésite pas. Hein.
On va tenter le coup.
On va tenter, on sait jamais. Hein. Et voilà, donc ça va être un très beau. Surtout les grands prix nationaux sont toujours sympas. Et à noter qu'il sera diffusé en clair sur Canal.
Et c'est merveilleux. On espère la victoire de Quartararo. Ça courait pas en Formule 1. Sera la semaine prochaine.
Non, c'est cette semaine il court du coup la F1.
Oui,
il court avec ce week-end, du coup, avec un Grand Prix à Miami, le premier Grand Prix de Miami, donc qu'on attend avec impatience. Enfin, du coup, il y avait déjà eu Miami, mais il y a très très longtemps, et là, c'est le retour de Miami avec un nouveau circuit. Ça va être sympa de voir ça. Ils annoncent du spectacle. C'est ce qu'on attend de voir.
Allez, on enchaîne avec le vélo et le Tour de Romandie.
Exactement, Tour
en
de
préparation
Romandie.
Du Giro qui démarre ce week-end.
Exactement, l'Italie toujours à l'honneur. À Romandie, enfin, ça se passe dans les Alpes.
C'est les Suisses, c'est la Suisse
romande.
Exactement, et on a le droit. Il parle italien aussi là-bas, donc c'est un peu l'Italie.
Non, c'est plus dans le Tessin.
Mais quand même. Non, mais en Suisse en général, pas en Normandie forcément. Mais du coup, voilà, donc on a eu le droit à une belle semaine donc, autour du Normandie avec la victoire finale pour le russe Alexander Vlasov de la Bora Hansgrohe. Il devance notamment. Hop là, il devance. Au classement général, le jeune. Comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Il arrive.
Je vais pas pouvoir t'aider.
Voilà, Gino Madère, le Suisse, du coup, de la Baren Victorious, et Simon Geschke, lui, l'expérimenté de la Cofidis. Il s'est imposé notamment grâce à un superbe dernier contre-la-montre sur la cinquième étape, avec un dominant, notamment Geschke et Madère, du coup, de plus de 30 secondes. Donc, il a montré qu'il était le plus fort sur ce tour de Romandie dans les montagnes. Je crois qu'il sera sur le Giro, donc ça sera intéressant de le voir là. Lui qui avait notamment fini 3ème de la Flèche Wallonne. Donc, c'est encore un coureur qui progresse beaucoup. Et notamment du coup avec la Bora Hansgrohe cette saison.
Ouais, l'étape Rennes qui était remportée par Egita, une montée de 30 km, c'était samedi, spectaculaire, qui fait mal aux pattes
et devant qui
déglingué tout le
Alexander Vlasov. C'est vraiment, voilà, on a eu le droit, et Thibaut Pinot fait 5ème de cette étape, donc c'était un
Grand Prix de Francfort, c'était hier, et c'était une course World Tour, ça.
Exactement, la fameuse
course pour les sprinters
allemandes, promise toujours aux sprinters.
Christophe, hein, qui l'a gagné 3 fois, je crois. Hein.
Notamment, oui, c'est vrai qu'Alexander Christophe a toujours très bien performé là-bas.
Podium ce week-end.
Il fait encore podium, hein, voilà, le vétéran norvégien. Et résultat, il fait une belle 3ème place, devancé par notamment Sam Bennett et Fernando Gaviria. Bennett, encore un coureur de la Bora Hansgrohe. Donc ça va être encore présent ici. Lui qui était chez notamment la Quick Step l'année dernière, et ben il se reprend bien. Première victoire pour lui cette saison, si je crois bien. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc les sprinters à l'honneur, et puis encore une victoire de
Bennett. Et on l'a dit, c'est le Giro donc qui débute samedi. Départ, grand départ de Budapest. Hein, on n'en finit plus d'innover, hein, dans le monde du cyclisme.
Hein. Oh oui, bah toujours.
Le c'est, tour, en fait, ça sera à Copenhague.
Ça devait être l'année dernière,
Giro,
mais
c'est Budapest.
C'était reporté à cette année.
Ouais, on a déjà eu un départ à Tel Aviv, hein, je te
oui,
rappelle,
c'est
Giro,
ça.
Donc on n'est plus étonné de rien. Alors, en grand favori, on attend qui pour cette édition
On attend Richard Carapaz, vainqueur de l'édition de 2020. On attend aussi, pourquoi pas, un Nibali qui accompagne encore lui, l'éternel italien, accompagné de Miguel Angel Lopez. On a du Giulio Ciccone qui sera accompagné de Bocchio Mollema. Pour l'instant, c'est surtout ça qui a été annoncé. Et puis surtout, Alejandro Valverde qui dispute son deuxième Giro après 2016 où il a fait 3ème, accompagné lui d'Ivan Sosa qui lui a gagné le Tour des Asturies cette semaine. Donc encore un coureur en forme du côté de la Movistar. On annonce, les coureurs vont s'annoncer au fur et à mesure de la semaine, mais pour la Quick-Step, il n'y aura pas de grands noms pour la montagne.
Ni pour la Jumbo.
Mais il y aura surtout Mark Cavendish qui dispute un nouveau Giro. Et ça fait plaisir à voir.
Quel leader pour la Jumbo?
Bonne question.
Vingegaard.
On attend sans doute, alors peut-être, on n'a pas encore la liste, mais ça sera peut-être un Vingegaard ou pourquoi pas, il y avait un Kruijswijk. On ne sait pas encore. Ça va être annoncé sans doute très prochainement.
Ok, allez, un mot de top 14. On jouait la 24e journée du top 14. Et ben, on veut des résultats, Charles.
Exactement, et on a eu le droit notamment à un très beau match entre Toulouse et La Rochelle. C'était samedi soir, et la victoire des Toulousains qui s'imposent 23-16 chez eux à Mayol.
Les Toulonnais.
Ernest Vallon, excusez-moi.
Ernest Vallon, tu parles des Toulonnais, du coup, bonne nouvelle pour toi, Matt. Ils ont gagné 29-16 à Bordeaux.
Ouais, ils sont toujours 8e, mais la 6e place est en vue à deux journées de la fin pour le RCT, hein, qui se battra avec Toulouse.
Ça va être très serré entre toutes les équipes pour aller chercher.
La Rochelle et même peut-être le Racing, hein, qui n'est pas sorti d'affaire, sachant qu'on terminera par un Racing Toulon.
Exactement.
Qui vaudra donc voilà, plein de suspense dans cette.
Et puis pour le titre, ça se joue entre deux amoucheurs de bois, entre Montpellier, Bordeaux, Bègles, Castres et même le Racing qui sont à 3 points.
Oui, pour les places des playoffs. Pour les places des playoffs, il n'y a rien du tout de joué, hein, à part Montpellier qui normalement doit avoir assez de points pour être dans les 6. Bordeaux, Bègles, c'est pas encore le cas. Et Castres, on ne sait pas encore.
Ouais, ça va être très serré en cette fin de top 14 pour la qualification. C'est que Gomola lui a été très remonté face aux journalistes de Canal+, qui voyaient enterrer les Toulousains alors que lui, bah non, il les voit qualifiés et tout. Donc c'est marrant.
Ah, c'est des petits jeux de pression.
Oui,
quoi.
Voilà, c'est ce qui.
Après, oui. Mais c'est vraiment une course à 8. Clermont peut-être un petit peu trop loin avec ses 5 points de.
Clermont peut-être 5 points
de retard.
Ça va être plus compliqué pour Clermont.
Mais c'est encore jouable. Hein.
Et on sait que Bordeaux a fini. Montpellier finira premier, je crois, c'est ça? Ou c'est Bordeaux ou Montpellier qui
C'est Montpellier qui est en tête.
Ouais, c'est ça, Montpellier en tête.
Alors ils finiront premier. Pas sûr,
mais ils sont déjà en demi. Ils sont déjà en demi, ils sont
assurés. C'est ce que je veux te dire.
C'est ça.
Donc ça va être très
intéressant. Ce week-end, on a les quarts de finale de Coupe d'Europe.
Hein. Exactement.
Ça y est, c'est reparti avec 4 clubs français en lice hein, parmi les 8. Et autant dans la petite Coupe d'Europe. On donne un mot de résultat de tennis. Ça jouait à Munich.
Estoril. Munich, on a eu le droit. C'est la pépite norvégienne, danoise, Holger Rune, qui s'est imposée en finale face à Van de Schloop, le néerlandais. Donc une belle victoire pour lui sur terre battue pour le Danois. Il a dit quand même 19 ans, il est encore très jeune. Hein, c'est pour montrer l'arrivée de toute cette génération encore de jeunes. Donc c'est vraiment intéressant pour lui. Il a notamment battu à Munich Alexander Zverev 6-3, 6-2. Donc ça montre le niveau du garçon. Du côté, ça joue aussi au Portugal à Estoril avec la victoire cette fois du jeune aussi argentin Sebastian Baez qui a gagné 6-3, 6-2 en finale face à Tiafoe. Donc on a eu le droit à un très bon, encore une fois. Un très bon Argentin avec notamment d'autres Américains qui étaient présents comme Korda qui a été perdu face à Tiafoe ou encore Abel Ramos Vinolas qui jouait lui face à Baez et qui du coup a perdu en demi. Et forcément tout ça c'est en préparation du Masters 1000 de Madrid qui se joue à partir d'aujourd'hui pour les hommes, enfin aussi hier effectivement. Et pour l'instant on a le droit à pas de grosses surprises. Les qualifications de Gaël Monfils qui du coup retrouvera au deuxième tour Novak Djokovic. Ça joue ce soir entre notamment Andy Murray et Dominic Thiem, donc un duel un peu de revenant. Ça va être intéressant à suivre. Humbert joue Chapovalov aussi de ce soir tout à l'heure. Les principaux favoris, eux, sont déjà qualifiés. Hein, les membres du top 8, les 8 top de têtes de série sont directement eux qualifiés pour le deuxième tour. Donc Djokovic affrontera notamment du coup Gaël Monfils. Nadal attendra le résultat de demain entre Kecmanovic et Bublik. Carlos Alcaraz, la pépite espagnole aussi, affrontera lui Basilashvili. Rublev affrontera Draper, tombeur de Sonego. Schwartzmann, lui, qui vient de s'imposer face à Benoît Paire, 6-2, 6-7, 6-1. Donc pas de nouvelle défaite pour Benoît Paire qui continue malheureusement dans cette dynamique négative avant Roland Garros. Ça est compliqué pour lui. L'autre match, c'était Deminor qui s'impose et qui, du coup, lui, affrontera Sinner au deuxième tour. Donc un duel de jeunes, lui, Deminor qui s'était notamment imposé récemment dans un tournoi, j'ai plus le nom, mais voilà, donc il s'était imposé récemment, donc c'est pour dire ça va être encore un duel très serré. Et Lorenzo Musetti, la pépite italienne, lui a battu Ivashka aussi en 3-7 et du coup affrontera le vainqueur de Sébastien Corda, Reli Opelka.
Ouais, sur le PGA Tour, on était au Mexico pour le Mexico Open. La victoire, c'est pour l'Espagnol Jon Rahm en -17. Un coup devant un trio d'Américains formé de Wu, Fino et Kitayama. Paul Barjon n'a pas passé le cut, encore une fois.
Bah, on croise les doigts pour lui.
Il joue vraiment ou
La prochaine fois, il faudrait que tu nous dises, il n'est pas passé loin.
Et ouais. Les autres Français, ils font rien non plus.
Il n'y en a qu'un. Hein, donc sur le PGA Tour, il n'y en a qu'un. Donc je ne peux pas vous parler des autres.
Si, du coup, alors juste pour revenir sur le cyclisme, tu as raison. Les autres, donc la start list notamment, avec comme tu le disais, du coup, pour la Jumbo Visma, ça sera Tom Dumoulin, vainqueur il y a quelques années, qui sera le leader de la Jumbo.
Sur quelle course ?
Sur le Giro. Sur le Giro, du coup. Simon Yates sera lui pour la Bike Exchange, lui qui cherche hein, ce fameux Giro. Hein, il avait notamment, il y a 2-3 ans, été très performant, mais s'était effondré et c'était Chris Froome qui l'avait emporté. Du côté des Français, on a le droit à Romain Bardet. pour la DSM qui sera là, donc ça va être très intéressant pour lui. Du côté des autres Français, on aura Arnaud Démare, le sprinter du coup de la Groupama, qui sera présent, donc intéressant à suivre pour lui. Il sera notamment du coup face à Mark Cavendish de la Quick-Step. Et du côté du coup de Cofidis, on aura Guillaume Martin,
Romain Bardet pardon, qui a récemment gagné le Tour des Alpes.
Tour des Alpes, récemment, on n'avait pas annoncé la semaine dernière, mais effectivement vainqueur du Tour des Alpes tout récemment. Thibaut Pinot avait lui gagné notamment la dernière étape pour son retour, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné, donc on les félicite, et c'était une belle journée pour les Français ce dimanche passé. Donc Romain Bardet qui sera forcément avec beaucoup d'attentes sur ce Giro, Guillaume Martin aussi forcément, le coureur de la Cofidis. On aura le droit aussi pour la team AG2R Citroën, Lilian Calmejean ou encore Nance Peters qui avait gagné il y a 2 ans sur une étape sur le Giro, donc ça va être très, très sympathique à suivre. Et Pavel Sivakov, le maintenant français, sous licence française du moins, aidera aussi notamment Richard Carapaz, lui qui devait aidé l'année dernière mais qui avait chuté, du coup c'était très compliqué pour lui sur le Tour de France. Mais voilà, donc on aura le droit à beaucoup de Français, donc beaucoup d'espoir de victoire, peut-être pas pour le classement général final, mais on aura le droit sur potentiellement des victoires, donc c'est vraiment intéressant, ça va être très intéressant à suivre. L'autre pépite, c'est le Portugais João Almeida. Pour la UAE Team Emirates, il n'y aura pas forcément Pogacar qui lui se concentre sur le Tour de France. Mais voilà, donc ça va être encore un
Giro
très ouvert.
Est-ce que tu peux nous donner les dates, s'il te plaît?
Ça sera ça part donc le 6 prochain, donc ça sera samedi.
6 mai.
6 mai prochain. Ça dure, donc ça dure 3 semaines forcément. Et donc on aura le droit à 3 belles semaines de cyclisme. Ça finit du coup fin mai.
Le 23.
Le 23, du coup, forcément.
Bon, moi, j'ai une info à vous donner. Vous savez que la saison d'athlétisme va bientôt commencer. Et ouais. Samedi, on a déjà eu droit à un coup de
tonnerre.
Un coup de tonnerre, c'est sensation à bâton rouge. Le jeune sprinter américain Erion Knighton, qui est le quatrième coureur le plus rapide sur 200 mètres. Il a signé effectivement un chrono à bâton rouge de 19,49, faisant de lui le quatrième meilleur performeur de l'histoire. Est-ce que vous connaissez donc les trois
Usain
qui
Bolt.
Ont couru plus vite?
Usain Bolt
en 19,19, absolument.
Blake. Michael Johnson.
Johan Blake en 19,26 et Michael Johnson en 19,32. Voilà. Donc, Erion Knighton, un nom qu'il va falloir retenir.
Et du coup, beaucoup s'interrogent sur le fait de la possibilité d'avoir enfin peut-être un nouveau sprinter en dessous, enfin, un futur peut-être sprinter en dessous des 19 secondes, ce qui serait une révolution dans le monde du sprint. Après, forcément, on connaît l'évolution des pistes, du matériel, des athlètes qui peuvent profiter finalement ces petits dixièmes et ces petits centièmes pour chercher la performance. Mais du coup, ça s'annonce quand même un gros athlète, futur grand athlète américain. On se souvient aussi de Noah Eliès, lui qui a plus 22-23 ans, bientôt 24, et qui est déjà une grosse pépite, mais qui du coup lui court actuel. Mais en tout cas, voilà, du côté américain, ça se renouvelle et pour l'instant c'est plutôt bon.
Et ben voilà, on attend ça avec impatience. Année des championnats du monde, ouais. Cette année, je crois que ça sera. Non, j'ai plus l'info, donc je vais pas vous dire une bêtise, mais il y a des championnats du monde cette année. Ouais. Voilà, on en a terminé.
À Zagreb, je crois.
On en a terminé, non?
Non, moi je vais vous redonner le programme, du coup, comme il reste 2-3 minutes. Yes. Je vais vous redonner le programme de vos sorties de la semaine à Nantes, au cas où vous n'auriez pas tout entendu. Donc, mercredi, vous aurez le choix entre Duga et la Trocardière, c'est-à-dire entre du volley Nantes-Toulouse chez les garçons ou du basket l'Hermine contre Aix-Maurienne, du coup. Et puis dimanche, vous n'aurez pas à choisir puisque vous pourrez commencer par le match du FC Nantes féminin face à Saint-Maur. C'est le dernier match de la saison à domicile. C'est à 15h au stade Marcel Sopin. C'est toujours gratuit, profitez-en. Comme dans le même temps, Le Havre va jouer à Lille, eh bien, peut-être que Nantes peut repasser devant juste à l'orée de la dernière journée. Dernière journée où Nantes se déplacera, ce sera le 22 à Lens, qu'il faudra absolument gagner puisque Le Havre, lui, jouera Vandenheim, donc devrait facilement le gagner. Mais si Nantes bat Saint-Maur et que Lille fait un résultat contre Le Havre, ça peut être très intéressant. Et puis je vous le rappelle, à 17h30, du coup, le match de handball féminin des Neptunes face à Chambray. Ouais. Donc vous pouvez aller voir les deux. Et on annonce que si Nantes gagne la Coupe de France, c'est pas impossible qu'on la voie du côté de Marcel Sopin le dimanche.
D'accord.
Eh ben on y sera.
à encourager nos Canaries samedi. Le rendez-vous est retenu. Voilà, il est 20h. On laisse la place à nos, à nos potes de passage en force. C'est de la NBA. À lundi prochain. Ciao, ciao.